Après avoir ouvert sur un très léger gain de 0,03%, malgré les records enregistrés hier soir à Wall Street, eh bien, le CAC 40 a évolué en territoire positif avant, il y a quelques minutes, de revenir sous son niveau d'équilibre, puisque le CAC 40 cède actuellement 0,14%, quasiment au plus bas de la journée, 5853 points, le tout dans un volume d'affaires qui n'a pas encore dépassé le milliard d'euros négocié sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs en Europe, on retrouve partout cette hésitation, puisque Francfort et grappille 0,08%, quand Londres 7,022%, l'Euro First 80, lui, abandonne 0,11%. Terminons par un coup d'œil sur le marché des changes. L'euro cote 1,4125 en hausse de 0,63% à nouveau face à la monnaie américaine. Voilà, Jacqueline, je vous rappelle le CAC, moins 0,14%, 5853 points à la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Tous les dimanches à 20h10,
voilà, allez.
Le masque et la plume. Jérôme Garcin.
Voilà, littérature.
Alors si c'est un roman,
bien. Cinéma. Est-ce qu'il y a sur ce film des réactions dans le public non. Arrêtez maintenant. Arrêtez les uns et les autres.
Ah bah c'est bon. Dit.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la Plume consacré à la littérature et au cinéma, rendez-vous demain à 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La différence.
Service public, Isabelle Giordano à 10h06 sur France Inter.
Merci beaucoup Jacqueline Pétros et je sais que vous allez être attentive. Je crois que le sujet d'aujourd'hui vous passionne. Alors à tout à l'heure, 11h pour un autre point sur l'actu. Bonjour à tous et bienvenue dans Service public. C'est l'histoire d'un client d'une banque qui s'est vu refuser une demande de crédit. Motif, il apparaissait dans un fichier d'interdit bancaire. En fait, il s'agissait d'une erreur. C'est l'histoire d'un demandeur d'emploi qui devait fournir une preuve de non-inscription dans les fichiers de la police. Une homonymie l'a privé du poste convoité. On estime à près de 30% le nombre d'erreurs qui figuraient dans les fichiers de la police. Quel crédit alors accorder à la numérisation galopante de notre vie quotidienne ? Biométrie, vidéosurveillance, traçage sur Internet, fichage discret dans les grandes surfaces. Nous sommes de plus en plus surveillés, du pass Navigo à la carte vitale. Notre liberté de citoyen et de consommateur est-elle menacée ?
Là, on passe devant une boulangerie et c'est particulièrement intéressant parce qu'à la limite, souvent c'est la caisse qui est vidéo-surveillée, mais là, on voit bien que la caméra, elle est carrément pointée sur les passants.
On voit bien la caméra là qui est pointée sur nous, alors qu'on est dans la rue, on n'est même pas encore rentré.
01 45 24 7000. Si vous voulez réagir au sujet d'aujourd'hui, fichés, surveillés, pensez-vous que votre liberté est aujourd'hui menacée par ces objets du quotidien que j'ai cités rapidement, le pass Navigo, la carte vitale, le téléphone portable, l'ordinateur? Pensez-vous que vous êtes surveillé, fiché? N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible aujourd'hui d'aller et venir anonymement en France? Pour ouvrir le débat, je vous présente mes deux invités. Alex Turc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, qui est censée justement limiter cet effet de surveillance qui est, paraît-il, en augmentation. Vous nous aiderez à faire le point sur cette menace, oui ou non. Et face à vous, Claude-Marie Vadreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, notamment au journal Politis, mais vous êtes surtout l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir ces jours-ci, La Grande Surveillance, qui sort aux éditions du Seuil. Alors, votre livre est justement un constat assez alarmiste de ces menaces. Big Brother est donc parmi nous, par notamment le truchement de ces objets de notre vie quotidienne. Quand on finit de lire votre livre, on a froid dans le dos parce qu'effectivement on a vraiment l'impression d'être de plus en plus mis en fiche et sous surveillance. Est-ce que c'est pas le livre d'un grand paranoïaque?
Non, je suis pas parano. Ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse à ce genre de progression de l'informatique. Je ne suis pas du tout contre l'informatique. Je l'utilise moi-même tous les jours. Mais je ne voudrais pas que la société dans laquelle je vis me considère en permanence comme un coupable potentiel. Et pour revenir, par exemple, à l'exemple du fichage ADN des émigrés, moi, je n'utiliserai pas le mot dégueulasse, mais odieux, attentatoire à la dignité humaine. Ce n'est pas parce qu'on est candidat à l'immigration, par exemple, que l'on est coupable. Or, c'est ce que notre société veut faire de nous, nous rendre potentiellement coupables, nous faire croire que nous avons fait quelque chose de mal.
Nous allons revenir bien sûr sur cette actualité, hein, le code génétique, l'ADN, nous en reparlerons, mais nous allons passer en revue également pendant cette heure tous les éléments qui seraient sujets à suspicion. Vous citez dans votre livre la vidéosurveillance, bien sûr, les cartes d'identité, la biométrie, la reconnaissance vocale, le fichage, j'en ai parlé, dans les grandes surfaces, la carte vitale, le pass Navigo. Mais surtout, nous aborderons la question qui est tout au long, qui court tout au long de votre livre. Vous n'arrêtez pas de dire que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, ne peut pas toujours nous défendre et qu'elle est bien impuissante. Alex Turc, vous vous sentez impuissant? Excusez-moi de la question, pardon.
Un peu vrai pour démarrer, si j'ose dire. Non. Nous ne sommes pas impuissants. On fait une grande quantité de travail. Nous avons des résultats. Il est vrai que depuis plusieurs mois, je me plaignais de manquer de moyens, mais je suis heureux de vous apprendre que dans le budget pour l'année prochaine, nous venons d'obtenir une augmentation de 20% de nos moyens. C'est-à-dire que je vais pouvoir doubler le service des contrôles de la CNIL, ainsi qu'une augmentation des moyens de fonctionnement. Lorsque j'ai vu le Premier ministre et que je lui ai dit que je souhaitais des moyens, il m'a dit « c'est pas la peine de m'expliquer, j'ai suffisamment entendu ». Et effectivement, nous avons nous-mêmes été entendus.
Parce que c'est vrai, quand on regarde certains chiffres, l'année 2005, 10 avertissements, 36 mises en demeure, c'est ce que vous avez fait sur l'année 2005, on peut trouver ça peu.
Bien sûr, c'est très peu, mais faut quand même voir d'où on vient. Il y a une quinzaine d'années, la CNIL faisait un contrôle par mois. Cette année, on en aura fait, je crois, 150 et on va doubler. Et ainsi de suite.
Et sur le pass Navigo, je sais que vous avez été très vigilant et très actif. On va y revenir. Une petite correction, hein. J'ai parlé de 30%, la marge d'erreur dans les fichiers de la police. Vous vouliez me reprendre sur cette information?
Il faut vraiment partir sur des bases justes. Dieu merci, il n'y a pas 30% d'erreurs sur la totalité des fichiers de police. Il y a 25% d'erreurs sur les demandes de vérification. C'est-à-dire que c'est par rapport à 30%, c'est rien du tout. On est sur quelques centaines d'unités, sur des millions. Mais pour autant, ça concerne des centaines de personnes qui sont dans une vraie difficulté.
01 45 24 7000, n'hésitez pas à poser vos questions directement au président de la CNIL qui nous fait l'honneur d'être avec nous et à Claude-Marie Vadraud. Mais je voudrais pour l'instant vous amener faire une petite balade. Notre reporter Antoine Lee s'est glissé aujourd'hui dans la peau de Jack Bauer, le héros de 24 heures chrono. Notre Antoine a rencontré ainsi Jean-Pierre Petit, membre de l'association Souriez, vous êtes filmé, une association qui dénonce l'utilisation des caméras de vidéosurveillance ainsi que toutes les technologies qui peuvent restreindre nos libertés individuelles. Sur un petit air donc de 24 heures chrono, on écoute le reportage d'Antoine.
Il est 10h30, je vais consulter mes messages au cybercafé qui est à côté de chez moi. Et bien là, je suis en train de regarder mes messages sur Internet. On peut voir, d'après l'historique, tout ce que j'ai consulté. Et on peut donc établir mon profil dans mon ensemble.
On vous doit combien, monsieur?
50 centimes, s'il vous plaît.
Vous gardez les données
sur l'historique de l'ordinateur? On peut savoir si les gens, par exemple, ils rentrent dans quel site, dans quel truc. Tout ça, c'est enregistré.
Vous gardez ça combien de temps avant d'effacer?
Juste un mois, parce qu'à chaque fois, on fait le formatage.
Et pendant un mois, vous gardez les données, alors?
Oui, tout à fait.
Merci, au revoir.
Allez, au revoir.
Il est 11h20, et là, je vais prendre le métro pour faire des courses. Et là, on passe devant une boulangerie, et c'est particulièrement intéressant, parce qu'à la limite, souvent, c'est la caisse qui est vidéo-surveillée, mais là, on voit bien que la caméra, elle est carrément pointée sur les passants.
On voit bien la caméra, là, qui est pointée sur nous, alors qu'on est dans la rue, on n'est même pas encore entré.
Il est 11h moins de quart, maintenant on va rentrer dans le métro. Un univers particulièrement intéressant.
Là, dans cette station Jean-Pierre, il y a trois personnes de la RATP, trois agents de la RATP, qui font de la pub pour quelque chose de nouveau.
C'est sur la carte Navigo qui permet de passer les portillons simplement en tamponnant la carte. Alors Navigo, le problème de cette carte, qui peut se justifier parce qu'elle est plus pratique, c'est qu'on va savoir quand est-ce qu'on rentre dans le métro et quand est-ce qu'on sort du métro. Et suite à la CNIL et d'autres des associations de défense des libertés, il y a une carte anonyme qui s'appelle carte découverte. Le scandale, c'est que les gens qui voudront rester anonymes paieront 5 euros de plus que les autres. C'est-à-dire que la liberté se monnaie au prix coûtant dans les couloirs du métro. On a une caméra là et elle regarde ce qu'on fait, quoi.
En même temps, la vidéosurveillance, il y a des gens qui la plébiscitent. C'est pour eux un gage de sécurité. Tout le monde n'est pas contre la vidéosurveillance. qu'on n'a rien à se reprocher, pourquoi ça nous embêterait d'avoir des caméras?
Ça élargit le champ de la culpabilité très loin. Dans une entreprise, votre patron peut se servir de la vidéosurveillance pour autre chose que la sécurité, sur votre comportement, sur les lois en vigueur, cigarettes, alcool, bientôt grignotage. C'est un champ très très large. Le principe de la loi, c'était de garantir la proportionnalité entre le besoin de sécurité et le besoin de liberté. Et au fur et à mesure que des faits divers médiatiques se développent, il n'y a plus que l'aspect sécurité qui prévaut sur l'aspect liberté. Et ça, c'est quand même particulièrement grave. Il est 11h15 et là, on va aller faire des courses dans un grand magasin. Caméra à l'ancienne dans ce grand magasin.
C'est-à-dire qui est bien visible.
Qui est bien visible, mais elle est presque pour la décoration principale, parce qu'en fait, si on regarde bien, le véritable outil de surveillance, c'est le dôme. C'est cette caméra pratiquement invisible qui est là au plafond et qui fait carrément tout l'espace des caisses.
Il faut savoir que c'est une caméra. Hein. En fait, c'est une espèce de petit bol noir accroché au plafond.
Il est très très discret. Donc avant, la politique, c'était la dissuasion au niveau de la sécurité. Et maintenant, c'est plutôt l'arrestation que la prévention des délits.
Ça à partir de combien les cartes bleues, s'il vous plaît?
Un euro.
Un euro? Merci, au revoir.
Il est 11h30 et en l'espace d'une heure, on a été pisté 7 fois, que ce soit par carte à puce, caméra ou portable. Et encore, je n'ai pas été à la pharmacie, utiliser ma carte vitale pour m'acheter un somnifère et oublier ce monde oppressant.
Merci à notre Jack Bauer, Antoine Lee, pour réagir à ce reportage. Avec moi, Claude-Marie Vadreau, auteur de La Grande Surveillance au Seuil, et Alex Turc, le président de la CNIL. C'est à vous que je m'adresse, Alex Turc. Est-ce que vous avez l'impression qu'un cap a été franchi ces dernières années en matière de surveillance?
On est en train de le franchir et on ne s'en rend pas compte. Le problème de fond, c'est qu'on confond toujours deux choses, la technologie et son usage. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de technologie bonne ou mauvaise, ça n'a pas de sens. En revanche, c'est l'usage que l'on en fait qui importe. Et effectivement, ce que je constate, c'est que beaucoup d'évolutions technologiques et aussi d'évolutions des textes, des lois et des décrets en vigueur font que dans quelques années, on sera effectivement dans un autre mode de société. C'est en train de se faire sous nos yeux et on ne s'en rend pas vraiment compte. Personne, ni les parlementaires, ni les journalistes, ni les citoyens. Et donc, j'appelle ça moi une société d'endormissement.
Une espèce de révolution silencieuse.
Voilà. Oui. Et un jour, on va se réveiller, on va se dire, tiens, finalement, tel fichier s'applique aujourd'hui, ça me fait telle ou telle difficulté. Donc, on voit certaines choses, mais on ne voit pas tout. Et puis, ajouter une chose qui est quand même paradoxale, c'est que la prochaine révolution majeure, ce sera le développement des nanotechnologies. Là, on ne verra rien du tout. Personne n'y verra rien.
Les puces seront tellement microscopiques, par exemple dans les étiquettes, objets qu'on va bientôt acheter.
C'est plus grave que ça, puisque on pourra créer des systèmes d'information qu'on ne verra pas au microscope. Ce qui veut dire que là, on sera dans une société où on sera dans l'incapacité de vérifier si on est tracé par quelqu'un d'autre ou pas. Mais ça, c'est pour l'échelon d'après. Donc, d'ici là, beaucoup de choses se mettent en place, vont peut-être se connecter, créer des synergies qui vont finir par changer notre mode de société à notre insu.
En même temps, excusez-moi d'adopter la même attitude un peu critique comme j'ai voulu le faire tout à l'heure avec Claude-Marie Vadreau, mais c'est vrai qu'on peut se dire finalement, pourquoi pas des caméras dans les bus? Il y en a à peu près 4 ou 5 000, dans le métro également. Ça peut être bien pour notre sécurité.
Mais encore une fois, la CNIL n'a pas de position de principe. Moi, j'affirme qu'il y a des vidéosurveillances probablement utiles dans certains secteurs, qu'il faut bien cadrer, expliquer pourquoi, faire l'information des intéressés. Vous écoutez le reportage tout à l'heure. Ce qui me choque, c'est que la personne qui a fait le reportage ne s'émeut même pas du fait qu'on ne la prévient pas qu'elle est vidéosurveillée. Or, elle devrait savoir qu'elle peut l'exiger. Mmh. C'est ça le problème. Mais on finit par s'habituer à ça. Et on arrive à cette phrase que j'entends très souvent et qui me choque profondément, qui consiste à dire « Je n'ai rien à me reprocher ». Donc, on peut faire ce qu'on veut de ma personnalité, de mon intégrité mentale et de mon identité. Je ne suis pas d'accord. Ça n'est pas parce que je n'ai rien à me reprocher que je peux accepter n'importe quoi. Mais ça, c'est très difficile de faire entrer dans la tête des gens, à commencer par les jeunes, qui sont les plus, en vérité, les plus rétifs à toute information et à toute pédagogie là-dessus.
On y reviendra. Claude-Marie Vadreau, c'est vrai que cet aspect sournois de la surveillance, c'est ce que vous pointez dans votre ouvrage, où la surveillance est la plus cachée. Vous citez notamment l'exemple des grands grandes surfaces, des supermarchés. Vous parlez d'un fichage.
Effectivement, vous avez vu que nous ne sommes pas face à face avec le président de la CNIL, mais côte à côte, en quelque sorte. Mais c'est vrai que malgré l'augmentation de ses moyens, il se bat un peu le dos au mur, et à chaque fois qu'il aborde ou qu'il approche un domaine sensible, eh bien la loi lui retire le contrôle de tel ou tel fichage.
Vous êtes d'accord avec ça, Alex Turc?
La vidéosurveillance vous a été retirée en 1995 sur...
Mais vous savez qu'elle nous revient progressivement.
Oui,
par le glissement juridique des lois, justement. On peut en parler. Hein.
Mais je vais répondre à votre question sur les grands magasins, parce que c'est effectivement un phénomène insidieux. Mais oui, on vend au public des cartes de fidélité. Tous les grands magasins le font. Cartes de fidélité pour lesquelles nous donnons des renseignements intimes, personnels, qui sont ensuite utilisés par ces grands magasins, qui en font des fichiers, qui les revendent à d'autres entreprises, qui les vendent à des partis politiques. Le président de la CNIL, au moment de la campagne électorale, est intervenu fermement dans ce domaine pour dire qu'on ne pouvait pas utiliser les fichiers commerciaux pour des messages politiques. Hein, c'était très clair. Et puis, tous ces fichiers permettent de dresser des profils psychologiques très précis de nos comportements, et je n'ai pas envie que l'on viole mon intimité et mes comportements. Je veux rester un homme libre et je ne suis coupable de rien. J'insiste beaucoup là-dessus. Ce fichage permanent que les jeunes, effectivement, ne remarquent pas, vous avez raison, Monsieur le Président, eh bien, c'est me considérer comme un coupable. Et je ne suis coupable de rien tant que je ne suis pas condamné à quoi que ce soit.
Mais je vous trouve vraiment gentil dans votre analyse, parce que si ce qui vous inquiète le plus, c'est le fait que vous donniez vous-même vos propres informations, vos propres données personnelles pour entrer dans un fichier dans le domaine commercial, si c'était ça la vraie inquiétude, moi ça me poserait pas de problème.
Mais moi je ne les donne pas. Quelle
est pour vous, Alex Turc, la vraie inquiétude?
C'est parce que là vous n'êtes pas obligé de les donner.
Oui. Mmh. En revanche, au supermarché, bien souvent on paye par carte bleue, et peut-être que les renseignements dans ce cas-là sont conservés.
Mais une carte de fidélité, si vous ne donnez pas vos renseignements, ou si par exemple vous recevez des courriers, des prospectus et vous ne voulez plus, vous le faites savoir immédiatement, on vous enlève du fichier. Ça c'est l'inquiétude de est dépassé, à mon avis. Je suis plus inquiet.
Elle est symptomatique.
Mais je suis plus inquiet du développement de Google, c'est-à-dire des possibilités de traçage sur Internet. Je suis plus inquiet de certains développements dans le domaine de la biométrie, etc. Parce que là, on fait appel à des technologies ultra puissantes. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, dans notre pays notamment, c'est qu'on n'a pas compris que depuis quelques années, la reconnaissance du droit fondamental à la protection des données est reconnue au même titre que la liberté de la presse. Si demain matin, on supprime la liberté de la presse, vous allez sortir vos banderoles vous-même et vous allez aller dans la rue et je serai avec vous.
On les a déjà sortis pour Google, qui effectivement peut pénétrer dans nos mails privés.
En revanche, êtes-vous aussi angoissé que nous le sommes vis-à-vis de la remise en cause du droit à la protection des données? Probablement pas, je ne vous en fais pas le reproche, parce que vous ne le savez pas suffisamment. C'est ça le problème. C'est que les gens n'ont pas compris que les données personnelles, c'est quelque chose qui s'attache à notre vie privée, à notre intimité. Et si on s'en sépare, c'est aussi grave que ce qui se passe pour le réchauffement de la planète.
Alors, je comprends votre position, et c'est pour la raison pour laquelle on vous donne l'antenne pendant une heure, parce que je pense effectivement comme vous que les gens ne sont pas suffisamment informés. Admettez que les gens se retranchent parfois derrière des positions, mais finalement pourquoi pas le dossier médical, le médecin a accès à tous mes antécédents médicaux, pourquoi pas un dossier médical informatisé, pourquoi pas effectivement entrer à la cantine quand on est un élève en montrant sa main, ses empreintes digitales.
Pour le dossier médical, vous maîtrisez, je veux dire, si vous ne voulez pas, le médecin n'y accédera pas. Il y a quand même des systèmes de cloisonnement. S'agissant du cas que vous évoquez, effectivement, il est très intéressant. C'est l'entrée dans les réfectoires. La CNIL dit, s'il s'agit d'un système qui ne permet pas de tracer derrière les adolescents, comme par exemple la main ouverte, puisque c'est uniquement la figure géométrique de la main qui est utilisée, pourquoi pas? Et donc, nous l'acceptons. En revanche, nous sommes évidemment réticents et nous refusons lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'empreintes digitales et qu'un stockage des données. Parce qu'on n'a pas envie que se promènent 5 ou 6 000 fichiers d'adolescents sur le territoire français dans des conditions de sécurité qui ne sont pas avérées. Et j'ajoute une chose, c'est que la CNIL précise que l'on doit toujours autoriser un élève à entrer au réfectoire même s'il refuse d'utiliser le système biométrique. Cette liberté-là doit être préservée.
Il faut leur dire. Alors, vous allez pouvoir en parler avec Pierre qui vient de nous appeler 01 45 24 7000 au standard de service public. Bonjour Pierre. Vous voulez intervenir sur cette question justement des élèves, de l'éducation, de la position de l'éducation nationale?
Bien. Alors, ce n'est pas exactement l'éducation nationale puisque nous avons mis un fils dans un collège privé d'enseignement catholique.
Mm-hmm.
Le directeur a mis en place, donc, sans concertation, avec les parents d'élèves, un contrôle de le système biométrique de surveillance, de contrôle de présence, exactement, des élèves. C'est-à-dire qu'à l'entrée du collège, il y a deux bornes et ils devront passer devant la borne avec une carte, soit avec une carte, soit directement leur doigt, une carte ou est imprimée, non pas l'empreinte digitale, comme j'ai monsieur vient de le dire, mais je me suis renseigné, c'est le réseau vasculaire qui est unique pour chacun. Et donc, je ne sais pas si on peut appeler ça déjà un petit scan, mais enfin, disons, c'est le réseau vasculaire qui à chaque fois est vérifié. Ce réseau vasculaire, donc deux bornes, une carte sur laquelle il est imprimé, et on met la carte, voilà. Donc tous les élèves devront passer comme ça.
Est-ce que les parents se sont mobilisés, se sont révoltés ou pas du tout?
Il n'y a eu aucune réaction à ma connaissance, je dis à ma connaissance parce que j'ai pris connaissance, j'ai mis mon élève plus tard que les autres, j'ai pris connaissance sur une circulaire, immédiatement je suis allé voir le directeur qui m'a dit, en gros, c'est ça où votre élève, vous n'inscrivez pas ou vous n'auriez pas dû inscrire votre élève dans notre établissement.
Alex Turc, vous réagissez, c'est interdit?
Je souhaiterais d'abord que la personne ne nous dise pas le nom à l'antenne de l'établissement, mais qu'elle nous téléphone à l'ACTIL pour nous le dire hors antenne, et on ira sur place. C'est totalement illégal. Puisqu'il
vous
fallait,
entendez, Pierre?
J'entends dire ça.
Il fallait une autorisation expresse.
J'ai écrit en lettres, et le directeur, le secrétaire général, ça va beaucoup très loin, parce que le secrétaire général de l'enseignement catholique, monsieur Éric Delabarre, nous a répondu une lettre, nous enjoignant, en gros, à rentrer dans les rangs. Et j'en suis absolument bouleversé.
Ne rentrez pas dans le rang, Pierre.
Écoutez,
et téléphonez à la CNIL tout de suite.
C'est le CATIP où la CNIL est compétente. Je vous précise que on ne peut pas en France, quel que soit le cas de figure, installer une biométrie sans une autorisation expresse de la CNIL. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu passer un dossier avec le réseau vasculaire.
Mmh. Donc, c'est-à-dire, il a quand même une déclaration à la CNIL. Il y a un numéro, hein.
C'est pas une déclaration, c'est une autorisation express. Alors, téléphonez-nous à l'ACTIL, on vérifiera quel est le cas.
Pouvez-vous me donner le téléphone?
01 53 73 22 22.
J'espère que vous avez eu le temps de noter. Sinon, on met tout sur le site internet, franceinter.com, cher Pierre. Le site de service public, on est là pour vous rendre service. Alors, dans le même genre d'idée, Claude-Marie Vadreau, je sais que on est en train, effectivement, d'aller dans votre sens, puisque vous consacrez un chapitre entier à l'éducation, à l'école. Vous écrivez d'ailleurs que la biométrie à l'école amorce le changement de nature de ces technologies. Elle ne vise plus à protéger ceux qui sont contrôlés, mais à vérifier où ils sont et ce qu'ils font. Alors, deux réactions, et j'aimerais avoir votre avis, sur des auditeurs de France Inter qui nous disent les choses suivantes. Jérémy Atour nous dit « Cette année, je suis étudiant, nos cartes étudiantes sont équipées de systèmes Monéo. Du coup, les repas, les photocopieuses et même les transports fonctionnent avec Monéo et toutes nos habitudes de consommation peuvent être suivies. » Khadija à Grenoble nous écrit « Le flicage commence dès la maternelle, je suis enseignante et je dois remplir des fichiers qui s'appellent base élève et qui sont disponibles sur Internet. Qu'en pensez-vous ?
J'en pense que l'on cherche à habituer les citoyens dès leur plus jeune âge à un fichage généralisé. C'est la banalisation. C'est pour ça que pour moi, ce qui se passe dans les grandes surfaces dont j'ai parlé tout à l'heure est important. Il y a 100 millions de cartes de grands magasins en circulation en France pour lesquelles nous avons, c'est vrai, Monsieur le Président, donné pour certains d'entre nous, tout au moins, pas moi, volontairement des données personnelles. Mais il y a une tentative de banalisation. Et cette tentative de banalisation, elle est organisée par les entreprises qui vendent ces technologies. On l'a expliqué à plusieurs reprises dans mon journal, dans Politis. C'est vraiment là le cœur du sujet, c'est que on habitue tout le monde à être surveillé et à se dire, comme vous le disiez tout à l'heure, oh ben finalement je ne suis coupable de rien. Mais si on utilise ce système, on ne peut plus organiser la résistance française pendant la guerre. Si Hitler ou si Staline avaient eu à leur disposition un tel système de fichage et de traçage, eh bien ils seraient pas eux-mêmes, mais leur parti encore au pouvoir.
Alors, continuons la liste de ces objets du quotidien par lesquels nous sommes surveillés. Vous parlez à un moment donné de la reconnaissance vocale. Alors, c'est vrai qu'on a tous, un jour ou l'autre, appelé tel ou tel service et on est tombé sur ce genre de message. Pour améliorer la qualité de notre accueil, votre conversation va être enregistrée. Si vous ne le souhaitez pas, signalez-le à notre interlocuteur, à votre interlocuteur. Ce genre de petit message, Claude-Marie Vadron, vous le citez dans votre livre, personne n'a envie de contester le fait de voir sa voix enregistrée, mais on ne connaît pas les conséquences de l'enregistrement de sa voix.
Non, j'ai découvert en faisant mon enquête pour ce livre que certains centres d'appel qui ne sont pas sur le territoire français procèdent à des enregistrements destinés à analyser les voix de façon à ce qu'il y ait des reconnaissances vocales pour les clients difficiles. Et ça, je trouve ça inadmissible. Alors évidemment, je pense que ça n'est pas possible sur le territoire français, mais on sait maintenant que beaucoup de centres d'appel se trouvent au Maroc, en Tunisie ou ailleurs.
C'est d'ailleurs une...
Alex Turc, pour la CNIL.
Je viens de mettre en place un groupe de travail qui va étudier la question des centres d'appel, qui pose effectivement un certain nombre de difficultés. Outre celle-là, il y a surtout le fait que ça permet de transférer des données personnelles d'un État de l'Union européenne, la France, vers un État extérieur qui ne présente pas forcément les mêmes garanties. Donc effectivement, il y a là un travail qui va être fait bientôt, et je pense qu'il y a, manière à rectifier les choses. Et je voudrais insister sur un point qui me paraît très important, c'est que faut pas rêver dans ce genre d'affaires. Moi, j'essaie d'être très pragmatique. On va pas revenir en arrière. Par ailleurs, le système est global. Alors, on pourrait faire tout ce qu'on veut en France, ça n'empêcherait pas, de toute façon, le développement de toutes ces technologies sur notre territoire. Moi, je pense que des bonnes réponses aujourd'hui, c'est de dire, bon, la société est ce qu'elle est, on peut essayer de limiter les choses, mais comment on peut vivre bien, heureux et libre dans ce type de société? Et moi, je ne vois que deux réponses possibles. La première, c'est une réponse pédagogique, c'est-à-dire il faut forger des citoyens adultes, et ça devrait commencer dès le lycée. J'ai vu le ministre de l'Éducation il n'y a pas longtemps, je lui ai proposé qu'on monte des actions ensemble pour sensibiliser les jeunes à ces préoccupations, comme une espèce d'instruction civique supplémentaire. Ce serait vrai aussi chez les étudiants. Moi, je suis prof à la fac. Quand je parle de ça à mes étudiants, ils me riaudaient.
Ah oui. Oh, bah, pour quelle raison?
Parce qu'ils s'en foutent royalement.
Ah oui.
Il y a qui nous disent.
Mais comment vous expliquez ce manque de prise de conscience chez les jeunes?
Mais Internet, ils l'ont pas découvert comme nous. Internet, ils vivent dedans, les cartes magnétiques, tout ça. Donc, ce qui fait que eux, ils vivent dans ce milieu-là depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils n'ont donc pas les mêmes réflexes d'autovigilance que nous. Moi, je pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire en sorte que les citoyens aient cette autovigilance. Et deuxièmement, c'est le rôle de notre autorité. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je lutte toujours pour développer ses moyens, pour faire en sorte qu'il y ait une autorité de contrôle indépendante qui soit la gardienne du temple de nos libertés et de notre identité. En dehors de ça, on se bat sur le plan international. Je passe ma vie à aller à l'international, précisément pour défendre nos positions. Regardez par exemple Google. Ils viennent d'annoncer qu'il fallait mettre en place des standards internationaux beaucoup moins élevé que le niveau de protection retenu dans les pays européens. On se bat sur ces sujets. J'étais à Bruxelles hier, on a parlé de ces questions-là. Donc, c'est ça le vrai combat qu'on doit mener.
On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur Google et la protection des données personnelles. Nous allons parler aussi du pass Navigo sur lequel vous êtes intervenu, la carte vitale, le passeport biométrique. Voilà, tous ces sujets, nous allons les aborder dans la demi-heure qui arrive. 01 45 24 7000 avec bien sûr vos questions et vos réactions. Mais pour l'instant, on écoute Brian Ferry.
Isabelle Giordano, 01 45 24 7000. Play. Through the tide and wind, and there's no
En ce moment, à Paris, se tient Milipol, le Salon mondial de la sécurité intérieure des États. Cette année, un nombre record d'exposants, plus de 900 exposants. 900 exposants, c'est vrai que le marché de la surveillance est en pleine croissance. On a évoqué au début de l'émission le problème des caméras de surveillance. On continue d'en débattre avec mes deux invités qui sont, je vous le rappelle, Alex Turc, le président de la CNIL, et Claude-Marie Vadrault, auteur de La Grande Surveillance aux éditions du Seuil. J'ai envie de dire que c'est un ouvrage de salut public d'une certaine manière. Et tout de suite, des questions au standard avec Alain. Bonjour Alain, je vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voulais vous dire que les caméras de surveillance, ça peut être aussi un instrument au service de la liberté. Parce que je vois le HLM où j'ai grandi, en province, et où ma mère vit toujours. Il y avait en permanence des groupes de jeunes installés là toute la journée, enfin, surtout le soir, qui terrorisaient les gens d'immeuble, parce qu'ils bloquaient l'entrée de l'immeuble, et il fallait donc couper le groupe pour entrer et sortir. Et ma mère, par exemple, était terrorisée, parce qu'à une certaine période, c'était la mode d'avoir des chiens d'attaque. Ils avaient des chiens et c'était très
menaçant. C'est plus à la mode, hein.
C'est plus à la mode. Non, c'est vrai, ces derniers mois, il n'y avait plus de chiens. Mmh. Et donc, et elle s'arrangeait toujours pour pouvoir entrer et sortir de chez elle, de faire ça avec quelqu'un d'autre. Ma sœur aussi, quand elle allait lui rendre visite, elle tournait autour de l'immeuble en voiture en attendant que quelqu'un d'autre rentre de façon à pas entrer toute seule.
Donc Pierre, si je résume votre avis, vous pensez, comme beaucoup de Français d'ailleurs, que la surveillance est un atout pour la liberté, pour la sécurité. Alex Turc est avec nous, il pourrait peut-être vous répondre sur cette question.
C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Il y a des cas où la vidéosurveillance se comprend bien, ou la biométrie. Prenons l'exemple d'un laboratoire qui manie des produits toxiques. Moi, je suis persuadé que tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il y ait des caméras et une biométrie pour améliorer la sécurité, parce qu'il y a un danger pour l'intérêt collectif. En revanche, développer une vidéosurveillance pour contrôler les allées et venues à l'entrée d'un hôtel, par exemple, ça peut se discuter, on voit bien. Donc, tout dépend de l'objectif qui est poursuivi. Quand il y a un impératif de sécurité des personnes, ça peut se concevoir beaucoup plus que quand c'est seulement une volonté de confort. Et donc, ce qu'il faut, c'est savoir résister. Ça n'est pas parce que dans la vitrine du magasin, on m'offre toutes les technologies que je suis obligé de goûter à tout.
Et un mot peut-être sur Milipol, le salon dont je parlais, avec ce marché de la vidéosurveillance qui est en pleine expansion, il y a partout maintenant, dans les parkings, dans les hypermarchés.
Bien sûr, ça explose. Alors là, j'en profite, je saisis l'occasion pour dire que chaque fois qu'un chef d'entreprise dit à ses clients potentiels que les appareils qu'il vend sont validés, labellisés ou conseillés par la CNIL, c'est un menteur. La CNIL ne donne jamais de label a priori pour l'utilisation d'une biométrie ou d'une vidéo.
On utilise votre nom à votre insu.
Oui, très souvent, et je profite chaque fois de l'occasion pour dire que ça n'est pas possible de faire du commerce dans de telles conditions.
Claude-Marie Vadrault, je voulais résumer votre pensée par cette phrase de Thomas Jefferson que vous citez à un moment donné dans votre ouvrage, mais je ne la retrouve pas malheureusement, vous la connaissez peut-être par cœur, mais c'est une phrase qui pourrait répondre très bien à l'auditeur qu'on vient d'entendre sur l'idée de la liberté qui est un peu mangée par la surveillance.
Mais ce que je voudrais dire à cet auditeur et aux autres, c'est que toutes les études qui ont été faites par l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, qui n'est pas suspect d'être contre le fichage et la vidéosurveillance, prouvent que cela n'a aucun effet sur la délinquance. Au mieux ou au pire, comme on veut, dans le cas de ce HLM, ça la déplace. Mais il y a à Paris des caméras de vidéosurveillance depuis un certain temps à la station de métro Strasbourg-Saint-Denis. Mmh. Ça n'a pas fait diminuer le nombre des actes de délinquance. Il y a les mêmes à la gare de Lyon, ça n'a pas fait diminuer la délinquance.
Et on pourrait citer aussi l'exemple des Anglais où en Angleterre, il y a à peu près 10 fois plus de caméras de surveillance qu'en France.
Et le taux de délinquance n'a pas baissé. Ouais. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu cet attentat raté à Londres dans une rue qui était pleine de caméras de vidéosurveillance, ce n'est pas la caméra qui a dénoncé la voiture suspecte, mais simplement 2 ambulanciers qui circulaient. Mais,
Alex Turc.
Oui, je voudrais dire, l'objectivité oblige à dire qu'il y a des hypothèses où ça permet tout de même de retrouver les gens qui sont à l'origine des attentats.
Ça après.
On ne peut pas le contester. Je vais prendre un autre exemple.
Il y a quand même des effets bénéfiques.
Bien sûr. Les attentats de Madrid, par exemple, tous ceux qui ont été à l'origine de ces attentats ont été retrouvés par les données de trafic de leur téléphone portable.
Bonne utilisation. En tant que président de l'ACTIL, je dis très bien. En revanche, une utilisation détournée du téléphone portable et des données de trafic pour repérer ce que fait un particulier dans sa vie courante, c'est scandaleux. Mm-hmm. Donc, c'est toujours pareil.
Alors le portable, venons-en, c'est un objet de la vie quotidienne. Il faut se méfier du portable, oui ou non? Je pose la question à vous deux.
Il faut se méfier de tout. Il faut se méfier des données qui se conservent. Moi, je suis pour la perte de mémoire au bout d'un mois ou deux de tous les ordinateurs, et cela se peut résoudre par la loi, tout simplement. Il suffit de décréter que les ordinateurs ne doivent pas conserver nos données personnelles.
Alors, on y viendra dans un instant. Je voudrais absolument qu'on parle de Google. On parlera également dans un instant du Pass Navigo et de la carte vitale. Mais parlons peut-être tout de suite de l'actualité. On a beaucoup parlé de l'ADN et du code génétique. Je voudrais qu'on prenne en ligne une spécialiste de la question. Elle est professeure de droit à Paris, également vice-présidente de la Commission nationale des accidents médicaux, spécialiste en droit de la santé, et plus particulièrement dans les questions de bioéthique. Dominique Touvenin, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est, d'après vous, le danger principal aujourd'hui en matière de surveillance en termes de dans le domaine des codes génétiques?
Alors, je crois qu'il faut d'abord faire une distinction tout à fait centrale, qui est qu'il y a deux utilisations de l'ADN. Il y a une utilisation pour mettre en évidence une éventuelle maladie d'origine génétique. Donc là, il s'agit d'identifier des maladies, et ça pose un certain nombre de questions. Et du côté notamment des assurances, mais je peux rassurer tout de suite vos auditeurs, les règles du droit français sont extrêmement claires. Il n'est pas possible à un assureur, en tous les cas, s'agissant de l'assurance de personne et de la garantie invalidité et décès, de demander un quelconque test génétique, et encore moins à quelqu'un de proposer un test génétique pour prouver qu'il aurait, si j'ose dire, un avenir personnel dénué de toute maladie. Et puis il y a ce qui actuellement fait débat, l'utilisation des empreintes génétiques. Il s'agit cette fois d'identifier une personne. Vous savez comme moi qu'il existe deux cas de figure d'utilisation dans les enquêtes pénales où on essaye de mettre en évidence d'identifier quelqu'un. Cela dit, c'est pas parce qu'il est présent sur une scène de crime que c'est lui qui a commis le crime. Mmh. Et le second, et qui fait actuellement débat, c'est la possibilité d'utiliser l'empreinte génétique dans le cadre d'une action en contestation de filiation. Alors, en deux mots, dans le système français, au jour d'aujourd'hui, il s'agit absolument pas de prouver, parce que souvent on dit, il y a une garantie qui est que tout ça se fait sous contrôle du juge. Mais il faut quand même comprendre quelque chose qui est essentiel, c'est que le juge est saisi d'un contentieux. C'est-à-dire, c'est un père, un mari, qui estime qu'il a quelques doutes sur sa paternité, pourquoi pas, mais il ne va pas devant le juge pour lui demander de la confirmer ou de l'infirmer par un test. Il fait une action en demandant la destruction de l'état civil de cet enfant. Mmh. Donc c'est dans ce cadre-là que ça se passe. Et ou alors c'est à l'inverse une femme qui a eu des relations suivies avec un homme de laquelle elle dit qu'il est né un enfant et qui veut faire la preuve de l'existence d'un lien de filiation parce que en revanche son compagnon s'y refuse.
Merci beaucoup Dominique Touvenin pour toutes ces précisions. Je vois que autour de la table de service public, Claude Marie Vadreau veut réagir.
Oui, parce que s'agissant de l'empreinte génétique, on est là dans l'exemple parfait d'un glissement vers un État de plus en plus totalitaire. En 1998, il y a une loi qui a créé le fichier génétique en France. Il s'agissait de conserver l'empreinte génétique des gens qui soit étaient pédophiles, soit avaient commis des viols. Difficile d'être contre, effectivement. Et puis, peu à peu, en 2001, on a fait passer ça, sous un gouvernement de gauche d'ailleurs, aux gens qui avaient commis des crimes de barbarie ou utilisaient des explosifs. Et puis en 2003 et en 2004, peu à peu, on a étendu cette notion d'empreinte génétique à 141 délits possibles, y compris celui de
trouble à l'ordre public. C'est comme ça que les faucheurs de maïs OGM qui n'ont pas commis un grand crime.
Vous voulez raconter en un mot cette anecdote, ce pauvre manifestant qui a refusé de
donner son empreinte génétique après injonction du juge, et il a été condamné à 500 euros d'amende, et l'affaire est encore en cours. Et il y a eu d'autres faucheurs OGM qui ont été contraints et qui ont refusé de donner leur empreinte génétique.
Non, effectivement, la loi y oblige. Je voulais simplement vous dire une chose, c'est que nous allions, dans les semaines qui viennent, avant la fin de l'année, nous allons faire parce qu'il est récent ce fichier, du point de vue de son chargement, et nous allons faire le premier contrôle complet de ce fichier, en fin d'année. J'espère que ça vous rassure. Donc la KIT va aller sur place et nous allons étudier dans
le détail.
Vous
nous confirmez que vous avez désormais les moyens de votre action ?
Voilà, on le fait pour l'ERG.
De nouveaux crédits, non ?
Exactement, c'est comme ça qu'on utilise l'argent du contribuable, et ça ce sera l'année prochaine, puisqu'il va arriver que l'année prochaine. Mais on fait le contrôle d'ERG, le contrôle du STIC, qui est le grand fichier de la police, et le contrôle du FNAEG, c'est-à-dire le fichier des empreintes génétiques. Et j'ajoute une chose par rapport à ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit à propos du développement de ce fichier. Et je suis ravi de vous l'aviez.
Vous l'avez prévu, d'ailleurs.
Je l'ai prévu, et je l'ai dit dans un texte, effectivement. Et vous l'avez fait remarquer avec beaucoup d'objectivité, gauche-droite.
Absolument.
Mais c'est important de le dire, parce qu'il faudrait que les gens comprennent aussi que c'est un problème de société. C'est pas un problème gauche-droite, cette question-là. La société est en train de glisser vers ce type de société avec l'assentiment de la gauche et de la droite. Or, vous avez parfaitement raison de dire, au début c'était un fichier qui était très localisé, très ciblé, puis il s'élargit, élargit,
141 délits, c'est énorme.
Voilà. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que il s'élargit peu à peu. Alors au début de la CNIL, on lui dit, vous êtes d'accord sur le premier fichier très localisé? Oui, on est d'accord. Le deuxième, troisième. À la fin, on dit, non, écoutez, ça devient excessif. On nous dit, attendez, vous avez toujours dit oui jusqu'à présent. Autrement dit, cette espèce de saucissonnage rend difficile le travail de l'autorité de contrôle. Ça, c'est une réalité qu'on voit dans tous les pays.
0145 24 7000, vous êtes très nombreux à nous appeler, à nous faire part de réflexions, également des questions. On nous demande par exemple, pourquoi y a-t-il une puce sur la carte d'identité ? Est-ce que la RATP a toutes les autorisations pour la nouvelle carte orange ? Pourquoi la NPE communique aux mairies la liste des chômeurs ? Voilà, beaucoup de questions sur lesquelles j'aimerais que vous interveniez. Mais pour l'heure, je voudrais qu'on écoute la question de Yves qui habite à La Rochelle. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà, je salue tous vos intervenants et vous-même, bien évidemment. Et donc, je voulais pouvoir parler à votre radio, parce qu'il m'est arrivé un fait assez intéressant. J'ai fait une demande de crédit, et donc pour ma demande de crédit, on me demandait, il y avait un fichier médical, un dossier médical à remplir. Et évidemment, bon, moi j'ai personnellement une hépatite C, donc j'en ai absolument pas parlé. Autrement, j'aurais pas eu le crédit.
Ouais.
Et donc, j'ai répondu à tabac, à alcool, bon vivant, non, partout. Bien évidemment, et le dossier a été de fait accepté, quoi, j'avais pas de nouvelles du dossier. Et en fait, 20 jours après, un mois après, j'ai reçu un complément. Alors que bon, il faut savoir que moi je suis suivi pour mon hépatite C, hein. Donc carte vitale, etc. C'est pris à 100%. Et donc j'ai reçu 15-20 jours après un complément d'information venant de l'assurance de la banque, comme quoi ils auraient voulu savoir, ils me demandaient une analyse très précise sur les transaminases, sur les composantes du foie, donc recherche de l'hépatite C.
Donc en fait, Yves, ce que vous nous dites, c'est que le secret médical n'existe pas dans votre cas. Réaction de Claude, je vois Claude Marie Vadrault qui réagit.
Oui, le secret médical, ça ne fonctionne pas par rapport aux assurances. Tout à l'heure, le professeur de droit nous disait que c'était interdit.
Voilà, normalement c'est illégal.
Oui, mais les pressions des assureurs, elles existent. Oui.
Alors,
on vous assure
possible,
pas.
Comment c'est possible, ça, à lecture? Comment c'est possible?
C'est-à-dire que là, dans le cas précis, c'est vrai que la personne s'adresse à nous, qu'on regarde dans le détail. C'est vraiment notre travail, ça. Que d'aller à ce moment-là dans le détail, faire le contrôle et donner raison ou non à la personne. Donc, ce que je lui suggère, c'est de nous téléphoner, mais qu'il le fasse vraiment.
Mm-hmm.
Et dès cet après-midi, on gardera la question avec lui, parce que il y a une chose que je ne saisis pas bien dans cette affaire, parce que ça ne devrait pas se passer comme ça.
Et notre spécialiste, professeur de droit qui était en ligne avec nous aussi, Dominique Tounin, je ne sais pas si elle est encore avec nous, mais voulait réagir, comme quoi effectivement ce que nous raconte Yves est tout à fait hors du droit. Ce qui nous permet de parler de la carte vitale 2, alors dans quelques années, tout le monde, 59 millions de nouvelles
59
cartes,
millions, oui,
avec
oui.
Une photo et une puce 8 fois plus puissante que celle qui existe aujourd'hui. Alors pour quelle raison? Pourquoi une nouvelle carte vitale? C'est une manière là encore de mieux nous
ficher. C'est pour... pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Je vois pas vraiment le rapport. Non, c'est pour mieux concentrer toutes les informations sur les populations.
Dans le livre que vous écrivez, Claude-Marie Vadrault, vous dites que il y a un risque nouveau, encore plus grand, de voir ce secret médical transféré à la médecine du travail, notamment.
Bien sûr, un médecin du travail, il va vouloir, bien sûr qu'il n'aura pas le droit, monsieur le président, mais il va, si l'employeur lui demande, eh bien, il va vouloir consulter cette carte. Si on embauche quelqu'un, on va savoir par la carte vitale qu'il a pu avoir une dépression nerveuse 8 ans auparavant, qu'une femme a subi une interruption de grossesse. Cela ne regarde pas l'employeur.
Ça fait partie aussi des dossiers que vous suivez, la CNIL. Vous ne pouvez pas tout suivre en même temps.
Mais il est vrai que la difficulté qu'on a, c'est que on prend des exemples. À chaque fois, vous citez des exemples de dérives possibles.
Oui, mais c'est pas des dérives possibles, c'est des dérives qui existent déjà. Et notre auditeur nous l'a prouvé.
Voilà, et qu'il faut sanctionner, effectivement, parce que il est tout à fait inadmissible que ça se passe comme ça. Mais je veux dire, on ne peut pas non plus juger un système, quel qu'il soit, et même en dehors de l'informatique, en fonction des dérives possibles. Donc ce qu'il faut, c'est bien cadrer des choses au début et mettre en place les moyens d'éviter des dérives et de les sanctionner quand elles ont lieu.
Alors, dérives ou pas, je voudrais qu'on réponde rapidement à cet auditeur Laurent en Loire-Atlantique qui nous demandait pourquoi est-ce que la NPE communique aux mairies la liste des chômeurs. J'ai été chômeur à une époque, le maire s'en est servi pour me discréditer auprès de certaines personnes.
Mais oui, mais la loi prévoit effectivement ce type de possibilités. Et je peux vous dire, là comme sénateur, je connais bien les maires. Les maires, ce qu'ils aiment, c'est trouver des solutions d'emploi dans leur mairie. Faut pas se raconter d'histoire. 99,99% des maires ne cherchent pas à faire du fichage de population, mais à essayer d'aider les jeunes qui cherchent du boulot. Donc, ils peuvent utiliser effectivement ces éléments de la NPE. En revanche, si un maire utilise cela pour discréditer quelqu'un, on sort du sujet. Cette personne doit être poursuivie pour diffamation ou autre. Mmh. Il y a une règle et une application.
On arrive presque au terme.
Mais on sort en permanence du sujet, parce que l'outil nous échappe et échappe même à ceux qui le contrôlent.
Et ben, continuons de parler des outils et je vous demanderai d'être un petit peu rapide. On va bientôt terminer cette émission. On nous a posé des questions sur la carte orange. Venons-en au Pass Navigo. Comment est-ce possible? Pourquoi la CNIL a-t-elle tant attendu pour qu'on ait un Pass Navigo anonyme qui, en plus, coûte 5 euros supplémentaires?
Non, on n'a pas tant attendu. Nous, on a immédiatement réagi dans cette affaire et c'est grâce à notre intervention.
Ça a mis 3 ans, hein.
Il a fallu 3 ans avant d'être écouté et d'obtenir satisfaction. Mais nous avions réagi le jour même.
Ouais.
Je constate que nous avons au moins obtenu une chose, c'est la possibilité de l'anonymat. Je regrette, comme vous, le fait qu'elle soit payante.
Et beaucoup moins facile à utiliser. Donc peut-être qu'on peut demander aussi aux citoyens de se mobiliser eux-mêmes. Vous parliez d'auto-vigilance, c'est peut-être aussi à eux de prendre les choses en main parfois.
C'est un problème de consommateur.
Un mot sur Google maintenant, puisqu'on parle des objets du quotidien. Claude-Marie Vadrault, je vois que là encore, vous hochez la tête, vous réagissez. Google est-il en train de nous observer, d'observer nos données personnelles et de quelle manière ?
Google conserve toutes nos recherches que l'on fait sur ce moteur d'information. Google piste tous les internautes et stocke dans des milliers d'ordinateurs toutes les informations sur nos vies personnelles, sur nos goûts, nos inclinaisons.
Qui leur permet,
politiques.
On en a parlé dans cette émission, de faire ensuite appel à des annonceurs et à faire de la publicité sur Internet.
Et ça leur permet de faire de la publicité ciblée. Et nous n'avons aucune action possible sur Google. Imaginez que je sois mêlé à un fait divers demain. Qu'on reconnaisse mon innocence, mais que les journaux publient un article sur ce fait divers. Le juge, la police auront conclu depuis longtemps que je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. L'article de journal sera pour des années et des années présent sur Google.
Et c'est exactement, Claude-Marie Vadrault, ce que nous dit un auditeur du Gers, Jean-Paul, qui est peut-être en ligne, on va le prendre très vite. Oui, alors très vite, Jean-Paul, racontez-nous votre aventure.
Oui, bonjour, je vous remercie pour votre émission, là, et je salue vos invités, en particulier Monsieur Turc, puisque j'ai fait appel à plusieurs reprises à la CNIL.
Ça marche ou pas?
Oui, on s'en est très bien occupé de mon cas.
Ouf.
Mais je pense que les difficultés sont très grandes, notamment auprès de la justice, puisque j'avais été fiché dans le cas d'une séparation. Mon ancienne compagne avait jugé utile, lors d'une demande de garde des enfants, de saisir d'ouvrir une procédure pénale. Mais j'ai été relaxé par la justice, mais cependant, les empreintes génétiques et photographiques et digitales avaient été prises par la gendarmerie.
C'est difficile de faire tout disparaître, en fait.
Voilà, et donc, il y a un procureur près de la Cour d'appel de Paris qui est chargé spécialement donc de cette gestion des fichiers, mais bien qu'il ait été contacté, j'ai pas eu donc l'impression d'avoir une réponse et j'ai dû saisir effectivement la CNIL, en particulier Madame Monnetier du Sorbier.
Bah écoutez, merci Jean-Paul, je suis désolée, je vais être obligée de vous couper. L'heure tourne, malheureusement, mais on aura retenu cette information positive, c'est que quand on saisit la CNIL, et tous les Français peuvent le faire, en général, ça marche.
Bah, je même le font tous, la CNIL va s'effondrer sous le travail.
La CNIL manque de moyens.
Comme celle-ci, l'après-midi même, c'est le déchaînement au téléphone. Bah,
tant mieux, vous avez parlé d'autovigilance. On écoute Sandrine Kiberlin, vraie chanteuse, hein, comme nous le dit la presse en ce moment. C'est un extrait de son deuxième album.
Ça y est, c'est fait, j'ai un micro. Sur scène, je bois de l'eau, c'est pour la voix. Je fais même des gammes, des vocalises. Je pars en tournée, je fais mes valises. Et oui, c'est vrai, ça prend du temps. C'est l'écriture, c'est très prenant. Je fais des brouillons et des ratures. Et puis, j'ai travaillé l'allure. Je suis chanteuse et je m'y crois. Faut que je déjeune avec Carla et Vanessa pour parler de ça. J'ai des musiciens avec moi. Ensemble on fait wa-wa choua. On est toujours bien assortis. On a bossé pour l'harmonie. Ils font les garçons, moi la fille. C'est important d'être précis. J'ai bien retenu toutes mes paroles. Vous voyez pas quand je m'affole. Je suis chanteuse et je m'y crois. Faut que je déjeune avec Carla et Vanessa. Travailler quelques mouvements, je bouge mon corps instinctivement. Bien sûr, tout le monde n'a pas ce talent. Moi, j'y peux rien, j'ai ça dans le sang. Et je commence au bon endroit. Je tiens la note comme il se doit. Do, ré, mi, fa, sol. Et puis là, ça impressionne quand je fais ça. Je suis chanteuse et je m'y crois. Faut que je déjeune. Je peux danser, on sait jamais. Et puis je prends bien la lumière. Vous trouvez pas que j'ai des faux airs de Mylène et de Madonna? Je sais, c'est prétentieux de dire ça, mais faut avouer que c'est frappant. La ressemblance, c'est évident. Je suis chanteuse et je m'y crois.
Sandrine Kiberlin sur France Inter. Je voudrais remercier mes deux invités, notamment Alex Turc, le président de la CNIL, et Claude-Marie Vadreau, auteur d'un livre d'autovigilance, puisque c'est une expression qu'on a beaucoup utilisée grâce à vous ce matin, Alex Turc. La grande surveillance aux éditions du Seuil, je vais vous demander très rapidement un mot de conclusion pour chacun. On démarre par vous, Claude-Marie Vadreau.
Bien simplement, je veux dire aux gens, payez le moins souvent possible avec votre carte bancaire et faites pression sur les parlementaires, sur l'opinion publique, pour que les ordinateurs perdent rapidement leur mémoire.
Restez éveillés, c'est ce que vous direz peut-être, Alex Turc,
au nom de la CNIL. Les jeunes ne peuvent devenir adultes que s'ils s'efforcent de préserver leurs droits fondamentaux à leur intimité, à leur vie privée.
Eh bien, on fera une émission avec des jeunes, avec vous, puisque vous êtes également professeur en dehors de vos fonctions à la présidence de la CNIL. Merci à vous deux. Dans un petit instant, Stéphane Bern reçoit entre autres Francis Perrin.
Parlons pruneau d'Agen avec le docteur François Fisch, nutritionniste.
Le pruneau d'Agen est un fruit dynamisant, facile à consommer. Sa richesse en fibres participe au confort digestif et à la diminution de la sensation de faim. Le pruneau d'Agen est donc le fruit parfait pour celles et ceux qui ne peuvent se passer de grignoter entre les repas.
Pruneau d'Agen, ça vous va bien.
Allô, le conseiller gaz de France?
Oui.
Vos solutions gaz naturel, là, voilà, elles sont performantes, économes, parfaites. Mais comme je suis très soucieuse de l'environnement, vous proposez quoi?
Eh bien, par exemple, la solution Dolce Vita Premium, avec une chaudière à condensation combinée à des capteurs solaires pour votre eau chaude. Comme ça, vous consommerez moins et vous respecterez encore plus l'environnement. Et avec un confort optimal.
Ah, vous avez réponse à tout.
Consultez l'espace Dolce Vita sur le site gazdefrance.fr. Gaz de France, une énergie nouvelle entre nous.
L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Vous êtes à l'écoute de France Inter. Il est très précisément 11h. Et c'est Jacqueline Pétros qui nous présente les informations. C'est à vous, Jacqueline.
Bonjour. Et puis, nous commençons tout de suite, bien sûr, par la Coupe du Monde de rugby. Après leur victoire sur les All Blacks, les Bleus affronteront en demi-finale samedi au Stade de France l'Angleterre. Et il y a quelques minutes, les sélectionneurs du 15 de France ont donné la composition de l'équipe, Patrick Grivaz.
Pour la première fois depuis le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, aucun changement n'a été effectué dans l'équipe de France qui va affronter samedi en demi-finale de la Coupe du Monde l'Angleterre. Les 15 joueurs qui ont blackboulé les Blacks et les 7 remplaçants qui ont participé au triomphe de Cardiff ont tous étaient reconduits. Il faut dire que les quelques blessés du combat contre les Néo-Zélandais sont rétablis et que compte tenu de l'exploit réalisé par les tricolores, il était difficile sportivement et psychologiquement de changer les hommes. Sans doute y a-t-il eu quelques discussions à propos notamment du maintien